Pensez le monde bas carbone avec Jean Jouzel. À l'occasion de Vivatech, EDF remet à l'honneur 10 grandes voix pour nous aider à penser le monde bas carbone à l'heure du défi climatique. Bienvenue dans le podcast « Ça change tout ». Grand climatologue, il est resté longtemps président du GIEC, ce groupe de scientifiques internationaux qui rend depuis 30 ans des rapports sur l'évolution du climat. Jean Jouzel ne cesse d'alerter les dirigeants mondiaux sur les dangers du réchauffement.
Disons que le climat d'aujourd'hui est celui qui était envisagé il y a une trentaine d'années, aussi bien pour le rythme de réchauffement, à peu près 1/2 dixième de degré par décennie, que pour, cette intensification, de certains événements extrêmes qui deviennent réellement perceptibles, cette intensification, que ce soit pour les vagues de chaleur, pour les inondations, l'intensité des cyclones. Et c'était vraiment ce qui a été envisagé, et donc ça veut quand même dire qu'il faut prendre au sérieux les projections qui sont faites à horizon 30 ans, 2050 et au-delà. Quand on prend les conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur ensemble, le premier risque, c'est l'accroissement des inégalités. Alors, on en est bien conscient entre pays riches et pays pauvres, mais même, et c'est ce qui est important, dans les pays développés, on donne souvent l'exemple de Katrina, ou de tout cyclone, de tout événement extrême, mais bien, généralement, malheureusement, ce sont les couches les moins aisées de la population qui sont les moins bien préparées, les moins bien prévenues, et qui ont le plus de mal à s'en remettre. En gros, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut s'y mettre tous ensemble, c'est très clair. Donc ça, c'est vraiment un facteur de paix, c'est très clair. Et à l'inverse, si on fait rien, eh bien, c'est quand même très difficile d'espérer que nos civilisations se développent sans à-coup, de façon harmonieuse. Un des risques, c'est effectivement l'accroissement des risques de conflits. Et voilà, donc ça commence, pour l'accès à l'eau dans certaines régions, à tout cela. Donc c'est tout ça auquel il faut réfléchir. C'est vraiment un problème de civilisation. Et c'est aujourd'hui qu'on en décide. C'est ça qui est difficile, à transmettre, cette idée que ce qu'on va décider au cours de la prochaine décennie va largement décider du climat de la fin de ce siècle.
S'y mettre tous ensemble, c'était la tentative de l'accord de Paris.
Moi, j'étais assez optimiste après l'accord de Paris, justement parce que cet accord de Paris, son grand succès, c'était son universalité. Je reste très attaché aux objectifs de l'accord de Paris. Disons, il faudra vraiment passer en dessous de 40 milliards de tonnes à horizon 2030. Et si possible, moins. Et donc cela, on parle bien d'une décroissance d'au moins 20%, si possible de 50%, entre 2020 et 2030. Donc il faut commencer cette décroissance maintenant, mais il faut qu'elle soit importante. Et encore plus importante sur les 20 années suivantes, puisque l'objectif 1,5 degré, il faut neutralité carbone au niveau planétaire à horizon 2050. Et ça dépend des scénarios, mais pratiquement être en mesure de réabsorber, de piéger une partie du CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. C'est quand même extrêmement dur vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui, puisque non seulement on leur laisse un monde auquel ils devront s'adapter, et puis on leur demande quand même aussi d'être capable de pomper une partie du CO2 que nous continuons à mettre dans l'atmosphère. Je dirais que quand les jeunes d'aujourd'hui auront mon âge, si on ne fait rien, ça leur sera extrêmement difficile de s'adapter. Et dans certains pays, ça sera pratiquement impossible. Je crois qu'ils ont de bonnes raisons de se mobiliser. Il y a aussi une autre raison, c'est que réaliser cette transition, c'est synonyme de dynamisme économique et de création d'emplois, d'inventivité, de recherche, d'innovation. Donc, réussir la transition, c'est aussi beaucoup d'attractivité pour les jeunes d'aujourd'hui.
Une économie dynamique porteuse de milliers d'emplois, notamment dans le secteur de l'énergie et de la recherche.
Je pense qu'on peut mettre la recherche, en tout cas un volet de la recherche, au service de la transition énergétique. Si on peut parler des énergies renouvelables, par exemple, il y a un frein à leur développement qui est l'amélioration du stockage de l'énergie, qui repose quand même sur de la recherche. Il y a un grand plan batterie en Europe qui est en train, moi, en gestation. Donc tout cela, ce sont quand même des recherches qui ont du sens, justement, pour moi. Je crois qu'il faut poursuivre l'effort de recherche, mais on ne réussira pas simplement par la technique. Je pense qu'elle est utile à faire cette transition. Disons, l'efficacité énergétique doit être au cœur de cette transition, aussi bien dans la mobilité, dans le bâtiment, l'urbanisme, dans l'énergie elle-même, dans l'industrie, dans le secteur agroalimentaire, mais on n'y arrivera pas sans une certaine sobriété.
Pensez le monde bas carbone, une mini-série proposée par EDF à l'occasion de Vivatech, à retrouver dans le podcast Ça change tout sur toutes les plateformes d'écoute.